Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, terrorisme au Burkina Faso. Des hommes armés ont une fois de plus attaqué la commune de Solenzo dans la boucle du Mouhoun dans la nuit d'hier à ce matin. Et puis sur la crise sécuritaire semble difficile à résoudre par les nouvelles autorités. Selon l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, il n'y a pas de quoi s'affoler car il y a des avancées dans la lutte. Il était l'invité de votre émission Dimanche Politique ce matin. L'AS Douane est le représentant du Burkina Faso en Coupe de la Confédération. Comment l'équipe se prépare? On en saura un peu plus avec notre invité Kamou Malo, l'entraîneur de l'AS Douane. Voilà pour vos titres. Bienvenue pour cette session d'information. En sécurité pour ouvrir ce journal. Dans la boucle du Mouhoun, l'étau se resserre. Au lendemain de l'attaque où les locaux abritant les symboles de l'État ont été vandalisés et dynamités, des hommes armés non identifiés ont récidivé. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont saccagé ce qui restait du commissariat. Ils ont incendié l'état civil et le groupe électrogène de la mairie. On en sait un peu plus avec Charles Da.
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 août 2022, aux environs de 20 heures, des hommes armés venus à bord d'un pick-up et d'une vingtaine de binômes de moto se sont attaqués à la commune de Solenzo. Ils ont saccagé ce qui restait dans le commissariat qui, rappelle-t-on, avait été déjà attaqué. Ils ont ensuite incendié l'état civil et le groupe électrogène de la mairie. Au niveau de l'ex-office national des télécommunications Onatel, des antennes téléphoniques ont été vandalisées, privant maintenant la localité de réseaux Move et Orange. Selon nos sources, les assaillants se sont retirés vers 1h du matin, abandonnant sur place des étuis de machettes et un sac contenant des écrits en langue étrangère. Des engins d'une entreprise chargée du bitumage de la route ont été brûlés.
Insécurité toujours, cette fois-ci dans la région de l'Est. L'attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans la localité de Nadiamboli, dans la province de la Tapoa, a fait 6 morts, tous des civils. 2 personnes ont également été blessées selon un bilan dressé par l'armée. Un autre bilan publié hier soir précise que les véhicules attaqués n'appartiennent pas à la mine, mais plutôt à des fournisseurs de la mine de Bungu. On rappelle, le 6 novembre 2019, une attaque d'un convoi de la même mine de Bungu avait fait 37 morts selon un bilan officiel. Et alors que des voix s'élèvent pour acculer le MPSR dans sa gestion de la crise sécuritaire, l'indexant d'avoir échoué dans sa mission de restauration de l'intégrité du territoire, Luc Adolphe Thiaw pense le contraire. Le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, l'honorable Luc Adolphe Thiaw, président du Rassemblement patriotique pour le développement, était l'invité de votre émission Dimanche Politique ce matin. Je vous propose un extrait de ses propos.
Moi, je ne m'inscris jamais dans ce genre d'analyse. Je dirais même que ce sont des fantasmes. On fait comme si on ne vit pas au Burkina. On parle comme si nous étions à l'autre bout du monde. Si la situation était pire qu'elle l'était, peut-être que Ouagadougou aujourd'hui était pris. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense qu'au lieu de faire ces analyses-là, qui tendent à dire oui, ils ont échoué, or que nous voyons qu'il y a quand même des résultats sur le terrain, vous avancez des chiffres. Qu'est-ce qui vous prouve qu'aujourd'hui on a reculé? Moi, je dirais non, on a gagné. Peut-être que il y a encore, bien sûr, quand on regarde ces derniers temps, les actions d'éclat qui sont menés, c'est-à-dire on attaque des symboles de l'État, des commissariats, des gendarmeries, on incendie des véhicules. Bon, ce n'est plus totalement la même forme de terrorisme que nous connaissions il y a déjà 1 an, 2 ans. On a vu depuis que le président d'Amiba a commencé à réorganiser le terrain et les forces de défense et de sécurité, à mettre en place un nouveau maillage, même s'il y a eu quelques attaques contre des positions de forces de défense et de sécurité, il y en a de moins en moins. Les gens, ceux qu'on appelle les terroristes, sont obligés aujourd'hui de s'en prendre à des civils qu'ils tuent inutilement.
Que faire si, au terme de la période de transition, les autorités n'arrivent pas à récupérer les espaces occupés par les terroristes? Faudra-t-il tout de même tenir les élections? Une question qui résume tout le problème de l'agenda de cette transition, selon Luc Adolphe Thiaou. Écoutons.
Nous, en tout cas, ayant fait partie des assises, nous avons estimé que vraiment, c'est les délais qui étaient peut-être raisonnables pour être sûr qu'au bout de 3 ans, on allait parvenir effectivement à une sécurisation maximale des territoires. Bon, mais ce n'est pas le point de vue de la communauté internationale, ce n'est pas le point de vue d'une bonne partie de la classe politique. Aujourd'hui, on a 22 mois. On parle plus de 24 mois. Aujourd'hui, on a 22 mois. Et justement, l'intérêt d'adjoindre des représentants des partis politiques et puis ou d'autres composantes dans le comité technique, c'est que les gens eux-mêmes vont avoir la lecture. Parce que avant, tant que vous n'êtes pas dans un système que vous-même vous pensez contrôler, vous croyez toujours que ceux qui sont à côté veulent vous tromper. Mais si nous avons nos représentants là-dedans, mais ils auront régulièrement des informations sur l'état d'avancement de la lutte contre le terrorisme. Dans le précédent agenda de 36 mois, on estimait qu'on pouvait organiser les élections si 75% du territoire était recouvré. Mais en 2020, je ne sais pas, on parlait de 30%, mais peut-être même pas. Donc, il faut qu'il y ait des conditions minimales de sécurité. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit à 75% au minimum. Si vous êtes, on ne peut pas organiser des élections en excluant 50% de la population. Il ne faut pas qu'on reprenne les mêmes erreurs commises en 2020.
La rediffusion de votre émission Dimanche Politique, c'est ce soir à 0h sur les ondes de Radio Omega et demain à 8h, mais aussi à 11h sur Omega TV. Lutte contre l'insalubrité, la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a organisé hier samedi l'opération Manamana dans les arrondissements 4 et 10 de la commune de Saba. Elle se joint ainsi à la traditionnelle opération d'assainissement des cadres de vie lancée par les autorités en avril dernier. Moumouni Yarou.
Un cadre sain permet d'éviter les maladies, mais bon nombre d'endroits sont infranchissables à cause des tas d'immondices, des ordures nauséabondes avec leurs conséquences sur la santé. Cette opération de salubrité vise à assainir les milieux de vie des uns et des autres. La délégation spéciale de la commune de Ouagadougou n'a pas voulu rester en marge. Maurice Konaté est le président.
Nous venons effectivement de sacrifier à une tradition instituée par les plus hautes autorités de notre pays, celle de faire tous les derniers samedis du mois une opération communément appelée Manamana, qui consiste en tout cas à déterminer un lieu, à faire de ce lieu un lieu bien nettoyé et à donner l'exemple pour que les riverains ou les populations de ces localités puissent s'en approprier afin de perpétuer cette opération qui consiste effectivement à faire de son environnement un environnement sain, un environnement bien nettoyé où il fait bon vivre.
Les premiers responsables de l'arrondissement 4 invitent leur population à nettoyer au quotidien leur zone. Abbas Ouedraogo, président de la délégation spéciale du dit arrondissement.
Pour nous, c'est une occasion pour inviter l'ensemble donc des populations de l'arrondissement 4 à s'approprier cette opération, de telle sorte que au niveau de notre arrondissement, toutes les artères puissent paraître propres et permettre donc à la population de vivre sainement. Parce que sans propriété, il est évident qu'on aura donc affaire à beaucoup plus de difficultés que le gouvernement va gérer par la suite. Il ne suffit pas d'attendre le dernier samedi du mois, c'est une activité quotidienne.
Le gouverneur du centre, Abdoulaye Bassenga, était de la partie. Il a invité sur son passage tout le monde à l'unité et à la cohésion sociale.
Après l'assainissement, le gouvernement se penche aussi sur les questions de dessertes en eau potable. À Bobo-Dioulasso, les hommes de médias étaient sur les chantiers des travaux du projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable vendredi dernier. Lancé depuis octobre 2020, ce projet vise essentiellement à renforcer les capacités de production dans toutes les villes de Sia. De la station de traitement de Nassau, en passant par les différents sites abritant les nouveaux forages et les raccordements, les journalistes ont pu constater l'état d'avancement de ces activités en présence des responsables du projet. Le reportage est signé Paul Soma.
L'Office national de l'eau et de l'assainissement de Bobo-Dioulasso enregistre 5 forages et une source d'eau à Nassau et 3 autres forages dans la ville de Bobo. La capacité de production journalière de tous ces ouvrages est de 55 000 m3 d'eau pour toute la ville. Malgré tous ces efforts, la ville continue d'enregistrer des pénuries d'eau au quotidien. Et le présent projet en cours de réalisation permettra d'augmenter la production d'eau potable à 92 000 m3 d'eau par jour pour un besoin estimé à 89 000 m3. Paï Ben Ilboudo est le responsable du projet de renforcement de la capacité de production d'eau potable de la ville de Bobo-Dioulasso.
C'est pour apporter plus d'eau à la ville de Bobo pour améliorer les conditions de vie des populations à travers bien sûr la distribution qui va s'améliorer. Et c'est la phase de raccordement de tout ce qui est équipement, ouvrage. Il y a une conduite existante qui assure la desserte de la ville actuellement.
Ces travaux nécessitent des perturbations à des moments de la journée, toujours selon Paï Ben Ilboudo.
L'interconnexion nécessite par moment des arrêts de production, des travaux de pose de conduite pour effectivement assurer la liaison entre les deux conduites.
Pour le chef de mission adjoint du dit projet, le niveau d'avancement des travaux est déjà satisfaisant. Abdou Malam.
Le premier lot consistait dans l'exécution des forages. Les forages sont exécutés à 100%. Le deuxième lot consistait à la réalisation de la pose de la canalisation depuis Nassau jusqu'à Bolomakoté avec la construction d'une bâche de 5000 m3. Les conduites sont posées à 100% depuis Nassau à Bolomakoté. La bâche est réalisée à environ 95%. Le deuxième lot consistait aux installations hydromécaniques. Ce lot, on est à un taux de réalisation d'environ 65%. Et cette échéance est fixée à mai 2023.
Le coût de ces travaux s'élève à plus de 15 milliards de francs CFA financés par l'Agence française de développement. Paul Soma, Bobo, Omega Média.
On parle solidarité à présent avec ce concept, Août Versaire est un collectif des natifs du mois d'août. Des membres commémorent le 8e mois de l'année à travers des œuvres sociales. Cette année, 2 structures, à savoir l'hôpital Saint-Camille et l'association pour la promotion des droits des orphelins et des personnes marginalisées, ont bénéficié de la charité de ces natifs du mois d'août. Solomon Nikiema a été témoin de la cérémonie de remise de dons aux orphelins. Samedi dernier, il fait le point avec Gilles Dasda.
Ils sont un peu plus de 300. Ils ont une chose en commun, être nés un mois d'août. Leur anniversaire, ils le célèbrent de façon particulière. Ces natifs du mois d'août, membres du collectif Out Versaire, apportent du réconfort aux personnes en détresse. Et par cet acte, les orphelins de l'Association pour la promotion des droits des orphelins et des personnes marginalisées, APDOM Burkina, basée à Cambouinsin, retrouvent le sourire. Le don se compose entre autres de sacs de riz, de maïs, de détergents, d'huile, de fournitures scolaires. Aïcha Belem, présidente du comité d'organisation Out Versaire.
Nous voyons les situations que ces personnes vivent au quotidien. Nous ne pouvons pas les aider chaque jour, c'est vrai. Mais par ce tact-là, en fait, nous donnons une partie de nous qui nous est chère et on vient soulager un tant soit peu, les difficultés que ces personnes rencontrent au quotidien.
Ce geste des donateurs a de quoi apporter du réconfort. Moussa Ouedraogo, président fondateur de APDOM.
Les sentiments sont des sentiments d'émotion, sentiments de compassion à leur égard, vis-à-vis vraiment de leur passage et de leur soutien, et vraiment du don qu'ils ont donné. Et c'est touchant, et vraiment c'est touchant.
Rukiatou Fologo, orpheline, est bénéficiaire.
Nous sommes tellement heureuses. Nous sommes contents de tout ça. On est tellement contents qu'on ne sait quoi dire. C'est la première fois qu'on vient nous visiter grandement comme ça. Et nous sommes tellement heureuses. Et nous prions que Dieu les bénisse abondamment pour cela.
APDOM n'est pas la seule à bénéficier de l'aide de ses natifs du mois d'août. Bien avant elle, le centre hospitalier Saint-Camille recevait sa part de dons du collectif Outversaire. Un collectif qui en est à sa quatrième année de célébration altruiste du mois de naissance de ses membres.
Les funérailles nationales de José Eduardo dos Santos ont eu lieu ce dimanche 28 août à Luanda. Décédé le 8 juillet à Barcelone, il aurait eu 80 ans ce dimanche. La dépouille de José Eduardo repose désormais aux côtés du père de la nation angolaise. Plusieurs chefs d'État africains sont venus assister aux obsèques nationales de l'ancien président. Parmi eux, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Félix Tshisekedi de la RDC ou encore Philippe Nyusi du Mozambique. En Libye, de violents combats entre milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli, la capitale. La capitale a été secouée par des fusillades et des explosions et se sont prolongées jusque dans la soirée de hier samedi, faisant au moins 32 morts et 159 blessés, selon un nouveau bilan dressé par le ministère libyen de la Santé, rendu public ce dimanche. Et puis au Pakistan, les inondations provoquées par les pluies de mousson débutées en juin 2022 ont provoqué la mort de 1033 personnes, selon le dernier bilan publié ce dimanche par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, relate l'AFP.
L'invité du jour. L'invité du jour.
La S-Douane est le représentant du Burkina Faso en Coupe de la Confédération. Le club burkinabé jouera le deuxième week-end du mois de septembre contre les Maliens du Real Bamako. Depuis quelques jours, l'équipe s'est retranchée à Ziaré pour une mise au vert avec à la clé plusieurs matchs amicaux, dont une victoire 4-1 sur l'AS Sonabel. Dans le camp Gabelou, c'est la confiance et on a hâte d'en découdre avec le Real. Kamou Malo, l'entraîneur de l'AS Douanes, est notre invité. Il est interrogé par Ibrahim Bailly.
Coach, bonjour.
Bonjour.
Ça fait déjà quelques jours que vous êtes ici à Zignaré pour un stage. Alors, dites-nous un peu sur quel aspect vous avez travaillé durant ce séjour de Zignaré.
Bon, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Et c'est vrai, nous sommes ignorés pour la deuxième partie, bien sûr, de notre préparation, parce qu'on avait déjà eu une entame au niveau de Ouagadougou. Et ici, c'était en tout cas pour terminer notre préparation athlétique, et puis notamment passer, bien sûr, à une préparation tactique également. C'est ce que nous avons essayé de faire, notamment dans la relance, construction, finition. Nous avons travaillé en tout cas notre bloc équipe. Alors nous avons essayé de mettre un projet de jeu en place et c'est ça la finalité.
C'est vrai que dans tout au plus deux semaines, vous allez entrer en compétition africaine. Est-ce que les garçons répondent bien? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'AS Douane a une équipe homogène?
Bon, on reconnaît le maçon au pied du mur. Alors, parce que là, nous sommes dans une situation où on s'entraîne, on essaie de faire des choses. Et on voit que les garçons répondent normalement dans le travail. Mais on pourrait juger ces garçons-là que à l'occasion de certains matchs. Alors, vous savez que notre championnat, bien sûr, ne va pas débuter avant que nous rentrons en lice pour la campagne africaine. Et donc, ça fait un handicap parce que le match, la compétition, aucun entraînement ne saurait remplacer la compétition. Donc, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas vous dire si nous sommes prêts ou pas. Mais en tout cas, nous faisons tout, en tout cas pour être prêts, répondre présent le jour du match.
Est-ce que la Supercoupe AGSB vous a permis vraiment de voir vos garçons en situation de jeu?
Oui, la coupe à gestion est arrivée quand nous avions juste 2 semaines de travail. Et ça, c'était la préparation vraiment purement foncière. Et là, vous avez vu des garçons. Nous avons pu évaluer, en tout cas, et les uns et les autres. Ça nous a permis, en tout cas, de visiter un peu l'écurie et de nous faire une idée claire de ce que nous devions travailler. Alors, c'est ce que cette coupe à gestion nous a permis, en tout cas, de détecter nos failles et de vraiment nous remettre à l'œuvre. Voilà, et on cesserait de remercier la GSP en tout cas pour cette initiative qui durant des années permet à toutes les équipes qui représentent le FASO de vraiment réviser leur leçon, si je peux emprunter ce terme.
L'adversaire, est-ce que vous avez une idée sur lui? Est-ce que qu'est-ce que vous avez comme information sur votre adversaire?
Bon, il y a des informations bien sûr que nous allons garder jalousement parce que ça aussi c'est tactique, mais nous savons que notre adversaire est un habitué, j'allais dire plus expérimenté que la S-Douane en termes de vécu dans le football continental. Alors bon, quand cela ne tienne, on dit qu'aux Zambiens nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Alors la S-Douane, bien que étant jeune dans la compétition, nouveau dans la compétition, en tout cas s'est donné les moyens en tout cas de ne pas faire de la figuration à cette campagne africaine. Alors donc nous avons quelques informations sur notre adversaire. Nous allons nous y atteler à travailler par rapport à ça. Nous n'irons pas à l'adversaire ce que nous connaissons de lui. Alors donc permettez-nous de garder ça en boîte.
Vous jouez à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un handicap?
Bon, le répéter, ce serait en tout cas du pléonasme, puisque quand on sait qu'aujourd'hui la compétition, c'est bien de jouer ce soir, pour avoir en tout cas l'accompagnement des siens, mais si nous n'avons pas cette opportunité, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, parce que nous savons tous que nous ne disposons pas justement d'un stade capable de homologuer pour recevoir ce genre de rencontres. Donc, nous savions déjà à quoi nous attendre, donc nous n'allons pas nous attarder dessus pour en faire un motif. Non, au contraire, nous devons utiliser cela comme une motivation supplémentaire. Nous serons du côté de la Côte d'Ivoire où nous allons recevoir nos frères maliens. Et je pense que le Burkina a une bonne diaspora là-bas, si c'est en termes de supporters. Alors je pense que aujourd'hui le football, le ballon, il est rond partout, comme on le dit.
Je vous remercie.
Merci.
C'est avec l'invité de la rédaction que prend fin ce journal réalisé par Fidèle Compaoré, au relais web Ibrahim Niaouné. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme.
Radio Omega, l'info en direct.